Au pays de Jeanne d'Arc, de Jules Lhermina. Je n'estimerais pas bon français, je l'avoue, l'homme qui pourrait entrer sans émotion, un sourire ailleurs aux lèvres, dans cette petite maison de Don Rémy où est née, où a rêvé, où a grandi Jeanne d'Arc. Avant de parler d'elle, avant d'écrire son nom, j'ai voulu faire ce saint pèlerinage, remonter à la source même de cette exquise épopée qui n'a son égal dans aucun pays, parce que peut-être nul n'a été autant aimé que la France. Avec une joie sincère, j'ai constaté que l'industrie moderne avait pu, en nous rendant l'accès de ce coin de la patrie plus facile, en épargner cependant la physionomie typique et ne défigurer par aucune des créations de l'architecture utilitaire ce paysage dont l'idéalité poétique se centuple par le rayonnement des souvenirs. Un pèlerinage, avons-nous dit. Notre plus grand désir est que le mot soit vrai, en un jour prochain. Nous voudrions que, de tous les coins de la France, les citoyens se rendissent en masse à l'humble village qui est en quelque sorte le tabernacle de l'idée patriotique. Nous voudrions que les enfants y vinssent puiser l'enthousiasme sacré de la passion nationale, les adultes la force, les vieillards l'espérance. Et voici ce qu'ils y verraient. De Maxey-sur-Vair, où s'arrête le chemin de fer qui va de Neufchâteau à Pagny-sur-Meuse, en passant par Vaucouleurs, le voyageur s'engage sur une longue route qui le conduit au village de Greux. À peine a-t-on perdu de vue les bâtiments de la station, à peine le panache de la locomotive s'est-il évanoui à l'horizon, qu'on se sent transporté dans un monde inconnu qui n'est plus la ville, qui est à peine le village. Dans un cercle de collines verdoyantes, une immense prairie qui irrigue la Meuse étale le velours soyeux de ses pâturages, manteaux tissés de fils d'émeraude, au milieu desquels pointent par milliers les fleurettes des champs, étoiles aux colorations claires et comme jaillissantes. Ainsi se parait la nature il y a 5 siècles, ainsi aujourd'hui dans cette vallée des couleurs, Valis colorum, vos couleurs, elle coquette encore. Sur ces paillettes qui relèvent le fond un peu sombre des verdures, la lumière d'un ciel large et profond, ayant la gracieuse pâleur des horizons du nord, met sa teinte pacifiante. On se sent enveloppé de repos. C'est une oasis de rêverie douce, et dans l'atmosphère subtile, les nuages blancs semblent prendre des formes vagues, s'effiler en gracilité symétrique où l'œil retrouve les contours d'êtres légendaires. En l'élan triste et sombre de la vieille Bretagne, des visions se dessinent aussi aux yeux des pâtres. Mais le nuage est noir, il a les déchirures brusques des roches qui l'enveloppent, et les évocations prennent un caractère de colère et de terreur. Ici, en ce coin de Lorraine, l'illusion se revêt de délicatesse, le trait est fin, la ligne, pure et fuyante à la fois, s'estompe de je ne sais quelle morbidesse qui est une grâce de plus. Voici un village. Est-ce Don Rémy ? Pas encore. Greux, défendant le hameau contre les bruits sociaux, semble une sentinelle qui garde un trésor. Mais cette sentinelle porte déjà les couleurs de celle qu'elle protège. Le nom de Jeanne apparaît. Le cœur se serre d'une émotion délicieuse. On sent l'approche du Dieu, disaient les anciens. Ici, le français sent l'approche de la patrie. Encore la route libre, encore des deux côtés l'encorbellement des prairies, puis Don Rémy la pucelle. Une centaine de maisons, à peine 300 habitants. Et cependant, combien plus saisissante est cette humilité même quand, suivant à pas lents la grande rue, ayant dépassé l'église qui ne garde plus, hélas, que quelques pierres de l'ancienne chapelle, cachées sous le plâtre des constructions modernes, on se trouve enfin devant la maison de Jeanne d'Arc. Par quelle main est-elle passée depuis le 15e siècle? Les archives notariales répondent à cette question. 4 noms apparaissent dans les actes de transmission successives, ceux d'Arc, d'Ulysse, de Salme et en dernier lieu de Gérardin. Au XVIe siècle, Montaigne la visita. À cette époque, selon lui, le devant de la maisonnette était tout peint des gestes de la pucelle, mais l'âge en a fortement corrompu la peinture. Le dernier propriétaire, Nicolas Gérardin, était un ancien soldat, un dragon qui avait quitté le service en 1808. En 1815, lors de l'invasion, il vit un jour les Allemands envahir la maison que seul défendait un souvenir. On taillait dans les poutres à coups de sabre. Les traces de ces brutalités sont encore visibles. Il a fallu que l'Allemagne marquât cette relique nationale de sa griffe insolente. Il y eut plus. Un comte prussien offrit au vieux soldat 6 000 francs de la maison. L'ancien dragon, qui était pauvre, refusa. Et 3 ans après, il la vendait à l'État français pour 2 500 francs, à la seule condition d'en rester jusqu'à sa mort l'habitant et le gardien. Il fut en outre nommé garde forestier et décoré. En ceci, la France ne se montra pas ingrate. Gérardin mourut en 1829 à Don Rémy. En 1820, d'ailleurs, le département avait acheté le terrain avoisinant la maison, avait procédé aux travaux de consolidation indispensables et avait obtenu son classement au nombre des monuments historiques. Il s'agissait là ni d'un palais, ni d'une demeure seigneuriale, ni même d'une de ces maisons bourgeoises aux allures solides et presque imposantes. C'est l'humble maison de village, composée d'un rez-de-chaussée, non surélevé, et d'un grenier. Sur le torchis blanc et suivant le toit, à demi-pignon, s'inclinant de gauche à droite, le lierre et les plantes grimpantes mettent leur broderie. La porte bâtarde, peu large, est surmontée de sculptures qui, naturellement, n'existaient pas au temps de l'héroïne. Nous en reparlerons tout à l'heure. Entrons. Voici une pièce assez vaste, un carré de 4 mètres de côté environ, véritable type de la cuisine, salle à manger, chambre de réunion familiale. Le sol est de terre battue, le plafond est soutenu sur des solives apparentes, c'est là qu'ont frappé les sabres des Allemands. À gauche de la porte, la vaste cheminée avec sa plaque de fond aux armes de Lorraine, une fiche de bois dans le mur soutenait la lampe de veillée. La pièce est éclairée par une fenêtre, s'ouvrant du même côté que la porte. Au fond, en face de cette fenêtre, une autre porte intérieure conduisait à la chambre de Jeanne. Rien ne peut mieux donner l'idée de ce que fut naguère la vie de nos paysans, même les plus aisés. Car Jacques d'Arc, père de la Pucelle, doyen de Don Rémy, ne peut être rangé parmi les pauvres. Ce que se refusaient avant tout nos aïeux, c'était l'air et la lumière. Pauvre petite chambre, triste caveau éclairé seulement par une étroite ouverture, laissant à peine filtrer quelques rayons du soleil blanc et clair qui rit au dehors. À gauche, auprès de cette meurtrière, un châssis en bois de chêne. Là était l'armoire de Jeanne, renfermant ses vêtements et ses objets personnels. Jeanne est avant tout la fille de la France. Un lien indélébile l'unit aux défenseurs de la patrie en danger, qu'il date de 1792 ou de 1870. Son sang est notre sang, son âme est notre âme. Et ce fut du seuil de cette maison que partit celle à qui nous devons de n'être pas anglais. Celle qui disait « Vous pouvez m'enchaîner, vous n'enchaînerez pas la fortune de la France. » Jeanne d'Arc était née à Don Rémy le 6 janvier 1412. Son père, Jacques d'Arc, était né à ses fonds près Montirandier en Champagne, aujourd'hui département de la Haute-Marne. Il semble que cette famille ait tiré son nom du village d'Arc en Barrois, même département que ses fonds. Ce qui justifie cette hypothèse, émise par Siméon Luce, c'est qu'en 1387, Huot d'Arc vivait à ce village d'Arc. Puis on trouva des membres de la famille d'Arc en divers lieux de Champagne, à Troyes, à Bar-sur-Seine, enfin à Céphons. On prétend même qu'à Céphons, la tradition indique encore la maison qui aurait appartenu à certains gens d'Arc de Don Rémy. Les moines de Montirandier étaient durs aux hommes de Céphons qui étaient leurs serfs et résistaient de leur mieux, aidés par le roi de France qui poussait à leur affranchissement. D'où un courant d'affection pour la royauté française. Les Anglais étaient haïs. Nulle injure n'était plus grave que celle-ci, fils d'Anglais. La mère de Jeanne, Isabelle Romé, était originaire de Vouton, village limitrophe de Don Rémy, et qui fait partie aujourd'hui du canton de Gondrecourt. Son nom de Romé lui était commun avec les femmes qui, soit personnellement, avaient fait le voyage de Rome, soit avaient de proches parents ayant accompli ce pieux pèlerinage. Son extraction était des plus modestes, car un de ses frères était couvreur, un de ses neveux était charpentier. Un seul personnage semble avoir occupé une plus haute fonction sociale, Henri de Vouton, second frère d'Isabelle, qui fut curé de Sermaise et de bonne heure lui inculqua les principes d'une ardente piété. Il nous faut ici réagir contre la légende qui a fait de Jeanne la fille d'humble paysan quelque chose comme une servante ou une gardeuse de troupeaux. Les recherches les plus récentes ont prouvé de façon indubitable que les biens immeubles appartenant à Jacques d'Arc et à Isabelle Romée constituaient un revenu équivalent à 4 ou 5 000 francs de notre monnaie. Si ce n'était pas la fortune, tout au moins c'était l'aisance large. Ils possédaient des chevaux de labour et d'importants troupeaux. De plus, nous l'avons vu, Jacques d'Arc était un des notables de Don Rémy, doyen, titre qui venait immédiatement après ceux de maire et d'échevin. La principale richesse des habitants de Don Rémy, dit M. Siméon Luce, c'était le bétail qu'ils mettaient à paître dans ces prairies où chacun, après la récolte des foins, avait le droit de faire pâturer un nombre de têtes de bétail proportionnel à celui des fauchés de blé qu'ils possédaient en propre. Plus d'une fois, Jeanne avait été préposée à la garde de ses troupeaux, quand venait le tour de ses parents, en quoi elle faisait œuvre de fille obéissante et de bonne fermière, ce qui en vérité ne peut lui être imputé à mépris. C'était la brave et honnête fille, dure au travail, soigneuse des intérêts paternels, ainsi qu'en nos familles de paysans on en rencontre si souvent. J'aime à voir en l'enfance Jeanne aidant joyeusement sa mère aux 1000 soins domestiques, faisant le ménage, surveillant le four et au besoin prenant courageusement le licol de la bonne et lourde bâche pour la mener au champ. Elle ne savait pas écrire, cela est vrai, à peine signait-elle son nom, mais elle avait l'intelligence fine et ferme de ces familles travailleuses qui ont fait la France. Elle avait aussi cette fierté native, enveloppée de modestie plus que d'humilité, qui est la caractéristique de la femme française. Elle avait encore la gaieté douce, la joie un peu railleuse, surtout spirituelle. Enfin, elle avait la bonté, le cœur large, la pitié profonde, la main ouverte. Habile fileuse et experte aux travaux d'aiguille, non sans une pointe de vanité, car elle dira plus tard à ses juges « Ma mère m'a appris à coudre, et je ne sais point qu'il y ait femme dans Rouen qui puisse m'en apprendre quelque chose. » Sa mère, profondément religieuse, avait développé en elle la foi naïve des convaincus et des martyrs. Pour elle, le ciel était monde de puissance et de délices. Au sommet, Dieu le Père, ayant son Fils à sa droite, la Sainte Vierge à sa gauche, et tout autour l'innombrable armée des anges dont le chef était Saint-Michel. En cette tête d'enfant, charitable aux petits, affectueuse aux souffrants, vers qui les petits oiseaux venaient, picorant leur nourriture dans sa main, les premiers récits des peines subies par la France causèrent une impression douloureuse. Le persécuteur visible, c'était l'Anglais. Toute jeune, balbutiant encore, elle avait vu sa mère affolée d'inquiétude alors que les pillards approchaient, et la Romée la faisait mettre à genoux auprès d'elle, disant à haute voix une oraison suppliante que l'enfant répétait « Saint-Michel, toi qui terrasses le démon, viens à notre secours !» Et quand les hommes d'armes apparaissaient à l'entrée du village, Jeanne, blottie dans quelque coin, répétait « Saint-Michel, sauvez-nous !» Vint l'âge de la première raison. Jeanne, élevée par sa sœur Catherine, que sa faible santé devait conduire à une prompte mort, avait pris d'elle le goût du repos, du calme, les mouvements doux et les immobilités méditantes. Ce fut, toute petite, une pensive. Un monde d'idées, d'images s'agitait dans son cerveau. À 2 kilomètres de Don Rémy, vers le midi, s'élève une côte qui domine la Meuse, dont les sinuosités capricieuses découpent la prairie. Là était un bois, peuplé d'arbres antiques et qu'on appelait le bois aux chênes, le bois chenu. De la maison de Jacques d'Arc, la promenade, jusqu'à ce bouquet d'arbres, est charmante. Le sentier, sortant du village, monte le long de la colline. Devant soi, l'horizon s'étend, vaste et clair. Sous un rayon de soleil, les méandres de la Meuse semblent les replis d'un serpent d'argent. Du point de la côte où se trouvait le bois, l'aspect est merveilleux. On aperçoit Cousset, Neuchâteau. Dans le frémissement de l'eau courante, les yeux puisent une sorte d'hypnotisme, tandis que l'espace, profond et lucide, ouvre à la rêverie des profondeurs phosphorescentes. Ce bois devait avoir sa légende, il l'avait. Un hêtre antique s'y élevait, qu'on appelait l'arbre aux fées. Le soir, au veillé, les bonnes femmes parlaient d'apparitions mystérieuses, de rondes fantastiques menées la nuit autour du hêtre. La Tieslin, marraine de Jeanne, affirmait, sinon les avoir vues, tout au moins avoir connu des vieillards qui les avaient vues. L'arbre aux fées était plus que vénéré, il était aimé. C'était là, quand les jours de fête, les villageoises de Greux, de Domrémy, de Cousset, voire de Neufchâteau, venaient danser, suspendant des fleurs aux vieilles branches qui les protégeaient. Bien souvent même, les dames nobles ne dédaignaient pas de venir se mêler à ces jeux. Parfois, quand elle avait quelque loisir, la petite rêveuse s'en allait, seule, jusqu'à l'arbre aux fées. Là, elle s'asseyait et songeait. Dans sa mémoire passaient les mots qui l'avaient frappée, les récits qui l'avaient intéressée, les plaintes qui l'avaient endolorie, celles surtout qui étaient le grand souci du pays, la guerre injuste que menaient les Anglais contre la France. Puis aussi, c'étaient les douces prières de sa mère, qui se disaient en son âme, qui se répétaient en son cerveau, et dans cette contemplation mentale des choses de la terre se mêlaient peu à peu les choses du ciel. L'imagination s'éveillait dans sa tête un peu engourdie. Aux réalités de l'invasion continuelle s'opposait l'illusion d'une défense miraculeuse. Quel enfant n'a pas rêvé, en quelque grand chagrin, l'intervention d'un être à la fois surhumain et doux qui vient tout à coup le protéger? Par elle-même, Jeanne n'avait point de soucis, et toutes ses facultés de pitié, de charité enfantine et féminine s'étaient concentrées sur ces personnages si grands et si malheureux. Le roi de France, Charles VI, malade, fou, disait-on, et que tous trahissaient. Louis d'Orléans, captif des Anglais, là-bas, dans le noir pays d'outre-mer. Le dauphin, gracieux enfant, persécuté, menacé. Ah, s'il avait la force, comme elle irait à leur secours. Saint-Michel, sauve-les, sauve-les. Saint-Michel, elle le connaissait bien, car il était peint, en couleurs irisées et chatoyantes, sur les vitraux de la petite chapelle de Bermond, dont si souvent la cloche l'appelait, où elle allait prier dans toute sa ferveur d'enfant, concentrant dans une pensée de dévouement et d'amour tout ce que la nature lui avait départi de force. Cette petite âme aimait, et la prière était pour elle la forme de cet amour. À toute heure, en tout lieu, ses genoux se pliaient, ses doigts se joignaient d'eux-mêmes. Elle offrait son cœur à je ne sais quelle œuvre encore mystérieuse d'abnégation et de sacrifice. Il y avait près d'elle aussi, de l'autre côté du cimetière qui attenait à sa maison, l'église de Domrémy, et sans cesse, au premier moment de liberté, elle y courait, s'enveloppant de l'ombre douce qui tombait des voûtes et là encore s'abîmant dans la contemplation et l'extase. Elle souriait et pleurait à la fois, pleurant aux douleurs entrevues, souriant aux espérances encore vagues. Avait-elle un peu d'argent? Elle le partageait entre les pauvres et l'autel, aimant à donner du pain aux uns et des fleurs à l'autre. Jeanne avait, qu'il nous soit permis d'employer cette expression toute moderne, l'âme artiste, le goût du gracieux, du beau. Elle aimait la couleur, l'arrangement pittoresque et charmant. Plus tard, elle devait se complaire aux belles armes et aux vêtements brillants. On l'a constaté. Est-ce donc un reproche? Non, certes. En cette imagination vive, tout ce qui était bon et beau avait son reflet. Elle se plaisait enfant au bouquet charmant, au groupement délicat des nuances végétales. Comme aussi là-bas, au bois chenu, elle se ravissait devant l'adorable paysage lorrain. Faut-il donc s'étonner si un jour de l'été de 1425, alors que Jeanne était dans son jardin, elle vit tout à coup devant elle, en une radieuse transfiguration, son Saint-Michel de Notre-Dame de Bermond, et auprès de lui, Sainte Marguerite de Domrémy, Sainte Catherine de Maxey. Elle avait alors 13 ans. La jeune fille s'éveillait à la féminité, la Vierge sortait de l'enfant, et les apparitions prononçaient les mots qui depuis longtemps jaillissaient de son cœur « Va et sauve la France ». Ne connaissait-elle pas la prédiction de Merlin sans cesse répétée? De vieilles gens n'avait-elle pas prononcé devant elle les mots si bizarres qu'on peut lire encore, traduits du gallois en latin dans l'archéologie de Mervyn? Ex nemore canuto eliminit abitur puella ut medele curam adibeat. Du bois chenu sortira une pucelle pour coffler au remède et la porte. En ce pays, écrasé entre les factions, est-ce que la légende du bois chenu avait été oubliée? Jeanne crut être, voulut être la Vierge du Salut, et elle fut cette Vierge. Elle se jura de conserver sa virginité et de la consacrer à l'œuvre de rédemption française. Là est toute la vérité, admirable et touchante dans sa simplicité. Jeanne eut la révélation intime de l'idée de patrie. Elle la développa en elle-même jusqu'à l'extase, et elle obéit aux ordres que lui donnèrent sa conscience et son cœur, objectivés hors d'elle-même en les apparitions des saints et des saintes. Mais quelle émotion en cet enfant, à mesure que l'idée du sacrifice s'imposait à elle comme un ordre d'en haut, que de crainte, que d'hésitation. Parlera-t-elle à quelqu'un? Demandera-t-elle conseil? Livrera-t-elle le doux et terrible secret de son âme? Elle se tut d'abord. Non qu'elle se défiât d'elle-même ni de ses voix, mais par cette pudeur de la conscience qui est innée en nous. Et plusieurs fois, à la fontaine, au bois, dans les champs, les formes saintes se montraient à elle et lui parlaient plus haut, plus ardemment, à mesure que son cœur s'enflammait lui-même de plus de ferveur. « Va au secours du roi de France, tu lui rendras son royaume. »« Moi ?» murmurait la pauvrette, épouvantée de ses propres aspirations, si clairement traduites. « Moi, je ne sais rien de la guerre, ni chevaucher, ni conduire les hommes d'armes. » Mais les semaines, mais les mois, mais les années passaient. Jeanne se sentait plus vaillante et plus forte. Elle grandissait à la hauteur de la mission qu'elle s'était donnée. Et les visions brillantes de se succéder plus fréquentes et les voix de donner des instructions plus précises. « Va trouver le sire de Baudricourt, capitaine de vos couleurs, il te fera mener au roi. »« Je n'oserai jamais. Sainte Catherine et Sainte Marguerite seront avec toi. » »« Ah, si les anges eussent voulu l'emporter !» Quand les saintes la quittaient, Jeanne pleurait maintenant. Elle les attendait, et bientôt elle revenait, renouvelant leurs appels, et la nuit à l'aube et au clair soleil de midi. Les voix étaient partout, dans le murmure de l'eau qui courait, dans le son des cloches, dans le bruissement des feuilles. Le saint, les saintes, se faisaient plus lumineux, plus éblouissants. Jeanne leur obéit. Et alors, commença cette épopée merveilleuse. Le voyage à Chinon auprès du roi, la prise d'Orléans, le sacre de Reims, toutes ces luttes admirables qui, hélas, devaient trouver leur sinistre dénouement sur la place du Vieux Marché à Rouen. Jeanne était morte, mais la France était délivrée. Elle avait accompli son œuvre. Jules l'Hermina.